Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le projet de la CEDEAO de créer une force militaire régionale. Alors les contours de ce dispositif ne sont pas encore connus, mais vous l'avez certainement entendu, notamment sur notre antenne. Dimanche, à l'issue du sommet de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les dirigeants ont annoncé vouloir se doter d'une force pour lutter contre le terrorisme. On peut évidemment s'interroger sur la pertinence de cette initiative quand on sait que la force G5 Sahel peine à monter en puissance, mais cette nouvelle force aura également pour vocation d'intervenir contre les coups d'État. Faut-il le rappeler, ces deux dernières années, l'Afrique de l'Ouest a été le théâtre de plusieurs putschs. Ce projet vous semble-t-il réaliste? À en croire vos nombreuses réactions, notamment sur WhatsApp, vous êtes dubitatif. On vous donne la parole dans une trentaine de minutes et on débattra ensemble de cette force militaire. Peut-elle vraiment empêcher les coups d'État? Peut-elle contribuer à rétablir l'ordre constitutionnel? 33 9 693 693 70 et comme tous les matins, évidemment, sur la page Facebook de l'émission ou le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Des questions pour commencer sur l'organisation de l'État islamique. Bonjour Mouriquet.
Bonjour Monsieur Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Merci de nous appeler de Conakry, en Guinée. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Oui, la semaine dernière, le groupe État islamique a annoncé la mort de son chef et aussitôt la nomination d'un nouveau chef du nom de Al-Husseini Al-Koussi. Donc, peu d'informations ont fuité sur lui. Monsieur Wan, j'aimerais savoir, que sait-on de lui?
Que sait-on du nouveau chef de l'organisation de l'État islamique? Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Cette mort a été annoncée effectivement la semaine dernière dans un message audio. C'est le porte-parole du groupe djihadiste qui annonce la mort d'Abu Al-Hassan Al-Qurashi. Et à part donner le nom du nouveau chef, on ne sait pas grand-chose de cet homme.
On ne sait pas grand-chose, comme on ne savait pas grand-chose de son prédécesseur jusqu'à sa mort. Et ça, c'est le propre, on va dire, des chefs de l'État islamique depuis 2006. Il y en a eu plusieurs. En général, on a leur pédigré après leur mort. Parfois, on a leur nom de guerre avant, c'est le cas là. Mais par exemple, le dernier, là, qui a été tué à Hadera, on ne savait pas grand-chose de lui avant qu'il ne soit mort et que des informations fuitent suite à sa mort. Donc, quelles étaient ses prérogatives, quel était son rôle en Irak, etc. etc. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un classique. Et ce qui est intéressant par rapport à donc l'avant-dernier et le dernier, on ne les a jamais encore entendus en audio, en tout cas pas sous leur qualificatif de calife, on va dire.
Quand vous
parfois,
dites...
ils ont d'autres prérogatives, on les aura peut-être entendus, mais on ne sait pas que c'est eux. Mais il n'y a eu aucun audio, aucune vidéo du prédécesseur de ce dernier, à l'inverse de Baghdadi, que lui, il y avait plusieurs audios de lui depuis un moment. On l'a même vu en vidéo en 2018.
Ouais, et vous faites bien, Wassim Nasr, de parler de nom de guerre, parce qu'effectivement, un nom a été communiqué, mais il faut rappeler que tous les chefs de l'organisation djihadiste portent le même nom, celui d'Al-Qurashi.
Oui, Al-Qurashi, c'est le qualificatif, c'est-à-dire pour rappeler qu'il descend du prophète, parce que c'est une prérogative pour être calife. Donc, Qurashi, c'est rappeler qu'il y a une descendance qui remonte directement au prophète, sinon il serait pas légitime. Donc, c'est un peu obligatoire.
Ouais. Wassim Nasr, reste avec nous. Mouriké a une autre question à vous poser.
Oui, ma dernière question. Nous savons que le groupe État islamique est présent au Sahel, est très actif au Sahel. Quelles seront les conséquences de ce changement de leader dans la région?
Avant de parler, Wassim Nasr, du Sahel, déjà, est-ce que cette mort est un coup dur pour l'organisation djihadiste? Vous le disiez tout à l'heure, vous parliez du dernier et de l'avant-dernier chef de l'organisation. Il s'agit quand même du troisième chef de l'EI tué depuis le début de l'année.
C'est le deuxième tué depuis l'année et le troisième depuis l'instauration du califat. Parce que Baghdadi a été tué en 2019, mais c'est le quatrième depuis l'instauration du groupe création islamique en 2006. Donc c'est un coup dur, oui, évidemment, surtout que le dernier, il a eu une longévité qui n'était pas très longue, quelques mois. Ouais. Donc évidemment, mais cette organisation, ce groupe est construit d'une manière que même quand le chef est tué, les filiales continuent à fonctionner. Et ça fait partie de leur ADN, parce que c'est comme ça qu'ils réussissent à survivre. Et ce n'est pas propre à eux, c'est propre aussi à d'autres groupes djihadistes, hein, qu'ils soient sunnites, chiites ou autres. Ça permet au groupe de continuer dans la durée. Le plus gros coup qu'ils ont pris, c'était avec la mort de Baghdadi, qui avait instauré leur califat, exporté l'État islamique au-delà de ses frontières irakiennes vers la Syrie dès 2012, puis vers l'Afrique dès 2014, et on peut en parler si vous voulez.
Bien sûr.
Donc un coup dur, oui, mais ce n'est pas un coup final, j'ai envie de dire, ça fait partie de leur ADN.
Ouais. Et quelles répercussions, quelles conséquences justement au Sahel ?
Pas grand chose, parce qu'ils ont déjà la grande répercussion, paradoxalement, qu'a eu l'État islamique au Sahel, c'était avec la mort d'Abou Walid, donc qui a été tué suite à une opération française, Abou Walid Sahraoui. Sauf que cette mort a été plutôt, on l'a vu, a été plutôt bénéfique au groupe, parce que depuis sa mort, le Sahel a sa province, parce qu'avant il dépendait d'Afrique de l'Est, donc du Nigeria, et depuis sa mort, le groupe est monté en puissance et a plus la confiance de l'État islamique central. Donc parfois, quand les chefs meurent, leurs problèmes partent avec eux, pour faire court, et ça régénère le groupe. Donc on verra, mais en tout cas, la mort de du calife et l'instauration d'un nouveau n'aura pas de conséquences directes ou opérationnelles, on va dire, au Sahel, où la filiale fait sa vie, en fait.
Ouais. Merci de votre analyse, Wassim Nasr. Moriké, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Parfaitement, je suis satisfait. Et je remercie M. Nasr et la radio du monde, ainsi qu'à ces milliers d'auditeurs. Merci beaucoup.
Et c'est nous qui vous remercions de votre fidélité et de votre confiance. À bientôt, Moriké. Et un grand merci donc à Wassim Nasr, notre confrère de France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. On va parler économie. Charlotte Cosset, du service éco de RFI, s'installe dans ce studio. Bienvenue, Charlotte.
Merci, bonjour.
On vous a demandé de passer, car Macky a des questions sur le Ghana qui est confronté à la pire crise économique de ces dernières décennies. Bonjour, Macky.
Bonjour RFI, bonjour à l'ensemble de vos auditeurs.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Monsieur Wan, le gouvernement ghanéen a mis en place des mesures pour restructurer sa dette intérieure. Concrètement, comment le gouvernement ghanéen compte-t-il s'en sortir économiquement vis-à-vis d'une situation que beaucoup disent délicate ?
Ouais, très délicate. La dette s'alourdit, mais il y a aussi l'inflation. Elle est à plus de 40%. Puis il y a la monnaie nationale qui perd de sa valeur de jour en jour. Charlotte Cosset, comme très souvent pour les questions éco, c'est technique, c'est complexe. On va essayer d'être pédagogue. Enfin, surtout vous allez essayer d'être pédagogue. Que prévoient les autorités ghanéennes pour stabiliser l'économie et concrètement pour restructurer la dette ?
Alors d'abord, c'est la restructuration de la dette intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme un peu partout dans le monde, afin de financer ses grands projets et boucler son budget, l'État ghanéen a mis sur le marché une série de titres et d'obligations, particuliers et banques notamment, ont donc acheté une partie de la dette du pays. Or, l'échéance de remboursement de ces titres arrivait à son terme. L'État a donc décidé d'échanger ces titres contre une nouvelle série d'obligations qui pourront être remboursées plus tard, c'est-à-dire entre 2027 et 2037. En plus simple, qu'est-ce que ça veut dire ? Le Ghana n'était pas capable de rembourser ses créanciers à la date d'échéance qui arrivait là en 2023 et a donc décidé de retarder le remboursement de la dette. C'est donc cette réorganisation de la dette qui a été annoncée en début de semaine dernière par les autorités.
Ouais, et ce n'est pas la seule mesure prise ces dernières semaines par les autorités ghanéennes.
Non, alors le Ghana étudie la possibilité de payer en lingots d'or ses achats de carburant, par exemple, ou
c'est-à-dire
alors
payer le pétrole avec de l'or.
Directement. Voilà, grâce aux réserves d'or du pays.
D'accord.
Le ministre des Finances a annoncé aussi, après avoir restructuré la dette intérieure, envisager de restructurer la dette extérieure, donc la dette possédée à l'extérieur du Ghana. Et par ailleurs, le Ghana travaille également avec le FMI. Hein, on le sait, il y a eu plusieurs missions dans le pays pour répondre aux exigences de l'institution et ainsi débloquer un potentiel prêt de 3 milliards de dollars.
Effectivement, 3 milliards de dollars. C'est la somme que négocie en ce moment le Ghana. Justement, on parlait du FMI. Macky, vous avez une question.
Justement, vous avez parlé que le pays est actuellement en négociation avec le FMI. Est-ce que l'intervention d'un acteur financier extérieur est l'unique solution qui se présente à l'État ghanéen pour sortir de cette crise.
Charlotte Cossel.
Aujourd'hui, le Ghana fait face à vraiment de nombreux défis. L'inflation, on en a parlé, environ 40%. La monnaie nationale, le CEDI, qui a perdu plus de la moitié de sa valeur et sa dette publique qui a explosé, et comme on l'a vu, qui est très difficile à rembourser. Donc les inquiétudes ont été vives de la part des investisseurs internationaux. Moody's a abaissé la note souveraine du Ghana. Cette dégradation générale de la confiance envers la dette ghanéenne a mené à la fermeture de facto des marchés internationaux pour le Ghana. Donc coupé de cette source de financement qui était la principale, les prêts coûtent cher, de plus en plus cher, et donc le Ghana est dans l'incapacité de mobiliser beaucoup plus ses banques. Le Ghana aujourd'hui n'a donc pas beaucoup d'autres options que de solliciter le FMI pour obtenir des prêts à taux préférentiel et donc faire rentrer des devises dans son économie.
Même si sur place ça ne fait pas l'unanimité, des voix s'élèvent justement pour dénoncer ces négociations, dénoncer une sous-traitance de la gestion économique du pays. On parle, pour dire clairement les choses, d'une perte de la souveraineté nationale.
Comme dans beaucoup de pays, mais les solutions ne sont pas multiples, malheureusement.
Maki, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci à la radio qui nous parle et qui parle de nous.
Merci Maki.
Et qui vous écoute et qui vous donne la parole tous les matins à 8h10, temps universel. Bonne journée, merci de votre fidélité. À bientôt, Charlotte Cosset.
Merci.
9h22 à Paris, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous écoutez la radio, vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information. Il vous manque parfois des éléments pour tout comprendre. Eh bien, on est là pour vous expliquer, vous décrypter l'actu. Mossadou nous a appelé de Conakry. Bonjour Mossadou.
Oui, bonjour Anne et bonjour à vos millions de spectateurs à travers le monde et bonjour au service sport de RFI qui nous tient en haleine pendant cette Coupe du Monde, donc un an édifice pas.
Évidemment, vous faites bien, merci de penser à nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar qui nous font vibrer quasiment tous les jours. Aujourd'hui c'est repos et demain aussi, mais c'est demain que commencent les choses sérieuses. Les choses sérieuses elles commencent depuis déjà 3 semaines, mais enfin voilà, demain on est déjà dans les quarts de finale. Allez Mossadou, vous avez des questions sur quel sujet ?
Bon, comment dire, c'est l'écran en France. Donc je disais, la semaine dernière, une enquête du New York Times indique que 18 000 crânes en provenance d'anciennes colonies sont toujours détenus par un musée en France.
Oui.
Et donc, c'est des interrogations à savoir. Comment expliquer qu'il y ait encore autant de crânes en France ? Une restitution de ces restes humains est-elle envisagée par l'État français ?
Alors, qui de mieux placé que l'auteur de cette enquête, le journaliste au New York Times, Constant Méheux, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé cette enquête sur les collections coloniales du Musée de l'Homme à Paris. Enquête que vous avez intitulée « Un musée de Paris détient 18 000 crânes, il rechigne à dire à qui ils appartiennent ». Notre auditeur Mossadou a entendu l'information sur RFI. Lui parle de 18 000 crânes en provenance d'anciennes colonies françaises. Ce n'est pas tout à fait exact.
Et effectivement, oui, c'est pas 18 000 crânes qui sont tous en provenance de colonies, ce sont 18 000 crânes en tout, dont un certain nombre très important qui proviennent de la France. Si on fait un détail un peu plus spécifique, il y a à peu près 50% qui viennent d'Europe, dont la grande majorité de la France, et les 50% restants qui viennent de pays non européens, dont effectivement une partie relativement importante d'anciennes colonies, notamment en Afrique.
Ouais.
Donc on ne parle pas de 18 000 crânes, issus d'anciennes colonies. Oui.
Et dans cet article, dans cette enquête, Constant Méheux, vous dénoncez, je vous cite, une omerta sur la quantité de crânes détenus par le Musée de l'Homme à Paris.
En fait, je ne crois pas utiliser le mot d'omerta, mais en revanche, il y a effectivement une forme de secret qui entoure ces crânes. Les différents chercheurs et anciens employés du musée à qui j'ai pu parler m'ont décrit en fait une forme de gêne en fait autour de ces crânes, puisque tout simplement ils jettent une lumière très crue sur le passé colonial français. Et puis ils font poser une question qui elle aussi est assez embarrassante, qui est pourquoi est-ce que le musée détient encore aujourd'hui ces crânes, pourquoi est-ce qu'il ne les a pas rendus.
Et justement, est-ce que vous avez pu, parce que c'est la question de notre auditeur, comment se fait-il qu'il y ait encore autant de crânes dans ce musée parisien ? Est-ce que vous avez un élément de réponse ?
Il y a plusieurs éléments de réponse. La première réponse, c'est que déjà, il y a eu très peu de transparence qui a été fait autour de cette collection de crânes, alors même qu'ils ont quand même plusieurs centaines de crânes qui sont identifiés avec des noms, avec des origines géographiques, avec des dates de mort, avec des circonstances également de mort. Toutes ces informations-là n'ont jamais été partagées publiquement, c'est-à-dire que si vous allez sur le site du Muséum national d'histoire naturelle qui compile toutes les collections d'anthropologie moderne, vous ne verrez que des numéros pour les crânes. Autrement dit, les pays, les associations, les communautés qui pourraient demander ces crânes et demander leur restitution n'ont déjà pas accès à ces informations de base.
Mais vous avez pu obtenir certains documents.
Et j'ai pu obtenir voilà, les documents
des documents
qui
classés confidentiels à l'heure actuelle.
Exactement, voilà. Voilà. Il y a un deuxième niveau obstacle à la transparence, qui est que le travail des chercheurs, là aussi, est rendu compliqué par tout un certain nombre de délais, par tout un certain nombre d'exigences, selon plusieurs chercheurs à qui j'ai parlé. Et puis enfin, il y a un troisième niveau, qui est que le muséum a mis comme politique de ne rendre que des crânes qui sont identifiés nominalement. Or, ça, c'est extrêmement compliqué, parce que, notamment lorsque les crânes étaient collectés au 19e siècle, ils étaient collectés avec assez peu de documentation, on les ramenait en France sans forcément savoir à qui ils appartenaient. Et c'est une politique qui est très différente du reste des pays en Europe, notamment l'Allemagne, qui rend beaucoup de crânes qui sont anonymes, mais qu'on peut relier à une communauté, à un pays plus spécifiquement.
Oui, j'ai sous les yeux justement votre article hein, publié la semaine dernière dans le New York Times. Il y a eu également un article publié sur le site internet de RFI. Et bon, on apprend que dans d'autres pays européens, quand on lit l'article de RFI, par exemple en Belgique, il y a encore, par exemple, 300 têtes africaines qui se trouvent encore aux mains d'institutions publiques. Public et privé. 40 000 ossements rapportés d'Indonésie à la fin du 19e siècle aux Pays-Bas. Donc il n'y a pas qu'en France où il y a autant de... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Autant de restes humains. La deuxième question de Mossadou, je la trouve aussi très très pertinente. Une restitution de ces restes humains est-elle envisagée par l'État français ?
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, on a eu assez peu d'exemples de précédents sur les restitutions de restes humains. Ça a commencé en fait avec la Vénus Hottentote au tout début des années 2000. Il y a eu ensuite un crâne kanak, on a eu ensuite une loi qui a permis la restitution de têtes maoris et enfin les crânes algériens. Qui se trouvaient être en fait pas du tout tous des crânes de résistants algériens comme ça avait été d'ailleurs annoncé à l'origine. Donc au final, on a en fait que à peu près 50 individus qui ont été rendus versus encore une fois des centaines, si ce n'est des milliers qui pourraient peut-être être rendus. Le problème immédiat en fait qui se pose sur la question de la restitution, c'est un problème légal, un problème législatif, c'est-à-dire que tous ces crânes font partie des collections publiques des musées et en tant que tels sont considérés comme inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer la propriété de ces crânes. C'est le même principe pour des œuvres d'art que vous trouvez au Louvre, au Quai Branly. Et donc à chaque fois qu'il y a une restitution, il doit également y avoir une loi de restitution qui fait sortir ces crânes de ce régime de propriété publique, ce qui est forcément un processus qui est très lourd. Donc ça bloque déjà. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'effectivement sur la question des crânes, c'est expliqué dans l'article, l'État français n'a pas du tout lancé le même processus de recherche que ce qu'il a pu faire pour les œuvres d'art africaines. Vous vous rappelez le rapport Sarr-Savoie lancé par Macron. Et donc là-dessus, il y a un vrai retard par rapport aux pays européens.
Mossadou, est-ce qu'on a répondu à vos deux questions ? Ah, que se passe-t-il, Mossadou ? La ligne vient à l'instant de couper. Bon, Mossadou, je pense que oui, en tout cas c'était passionnant, Constant Meheux. Je renvoie évidemment les auditeurs qui sont intéressés à votre article publié dans le New York Times, c'est en anglais, donc voilà. Mais sinon, il y a également cet article très intéressant de Sabine Sessou sur RFI.fr. « Europe, les restes humains coloniaux font scandale ». Et on évoque notamment cette enquête du New York Times, tout comme une affaire qui a fait grand grand bruit la semaine dernière à Bruxelles. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Constant Meheux, journaliste au New York Times. On va marquer une pause dans cette émission. On va retrouver l'ensemble du service Afrique d'RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour parler, débattre ensemble de ce projet de mettre sur pied une force ouest-africaine pour lutter contre les coups d'État.